Parmi les trois textes lus aujourd'hui, le premier, chez Zacharie, et le troisième, dans l'évangile de Marc, font partie du programme de lecture régulier de la plupart des paroisses de l'Église protestante unie de France, y compris la nôtre, la Bible en 6 ans. Je me suis permis un petit écart en y associant ce texte de l'Épître aux Galates, dans lequel Paul répète sa question: est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? En général, on lit ce texte lorsque l'on veut illustrer l'offensive de Paul contre l'espoir du salut par les œuvres, par la loi, et son affirmation du salut par la foi. C'est une position qui amènera la révolution théologique de Martin Luther et surtout de Jean Calvin. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas évoquer cette question majeure, salut par la foi, salut par la loi, mais bien ce que Paul exprime avec une certaine colère, qui est la centralité de la parole. Le caractère fondamental de l'exercice auquel nous nous livrons à l'instant, vous et moi qui partageons la même foi. Quand je dis partageons la même foi, nous avons tous des cheminements spirituels différents, des manières différentes de comprendre, de concevoir, d'objectiver notre foi, des parcours plus ou moins sinueux à l'intérieur de cette église de tradition réformée, ou en passant par d'autres dénominations, d'autres religions. Certains d'entre nous ont été catholiques, musulmans, juifs, athées, bouddhistes, que sais-je encore, mais je ne me trompe pas en disant que tout le monde ici peut se dire chrétien, et même protestant. Et pour nous tous, la parole est centrale. Cette parole-ci, le dimanche, dans un temple, une parole qui s'entend par des prières, par la lecture de textes bibliques, par le chant, par la prédication, la parole commentée, la parole partagée, la parole écoutée, évidemment. Et le hasard, mais c'est évidemment pas un hasard, puisque, je le répète, nous suivons le programme de la Bible en 6 ans, dimanche dernier, notre pasteur André Asloff à prêcher sur la parole, sur la manière dont la parole de Dieu devient acte dans nos vies. Et d'une certaine manière, je poursuis ce propos-là. Et ce que dit Paul aux Galates, il a un peu énervé, Paul, Paul dit qu'il faut écouter. Et écouter l'Évangile vers 50 après la naissance du Christ en Galatie, ou Galatie, je n'ai jamais su prononcer. En tout cas, c'est près d'Ankara, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. En 50 après Jésus-Christ, quand, dans ces environs-là, quand Paul écrit son épître aux Galates, écouter la parole ressemble sans doute à ce que nous faisons aujourd'hui. Des textes de l'Ancien Testament, certainement les psaumes, des hymnes, une prédication, peut-être la lecture de textes qui vont devenir, quelques années plus tard, les trois évangiles synoptiques, ce que les philologues appellent la fameuse source Q. Écouter, au temps des Galates, écouter la parole, c'est certainement à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Et encore, Paul s'exprime à l'écrit. Ce que nous avons, c'est un texte envoyé par les cheminements longs et lents de l'époque. Et il faut imaginer sur quel ton il le dirait dans une chapelle face aux Galates. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi ? À l'oral, il mettrait des points d'exclamation, il mettrait des jurons, certainement, des jurons bibliques. Mais ils joueront quand même. Bon sang de bonsoir, est-ce que c'est en écoutant l'Évangile que vous avez reçu l'Esprit ? Et nous avons tous un jour ou l'autre, dans nos vies les plus profanes, à l'école, au travail, en famille, chez les scouts, en vacances avec les copains de pétanque ou de randonnée, nous avons tous employé ce ton-là, un jour ou l'autre. Est-ce que tu peux écouter, s'il te plaît ? Est-ce que tu écoutes ? Comment tu écoutes ? Et c'est aussi ce que dit Zacharie. Ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel leur adressait. 500 ans avant la naissance du Christ, Zacharie, le 11e petit prophète de l'Ancien Testament, annonce la venue du Messie, mais il clame l'urgence de l'écoute. Et comme souvent, on trouve dans le Nouveau Testament des échos à l'Ancien Testament, mais des échos dans lesquels le Christ décale le regard. Et là, il n'apporte pas seulement une recommandation, pendant son ministère, il pose un acte, et cet acte est un miracle. Alors, quand on a lu pour la première fois dans la Bible, quand on était enfant, ou quand on a entendu pour la première fois l'école biblique, ou même quand on est un adulte, aujourd'hui, un adulte, surtout un adulte protestant, il y a forcément quelque chose d'un peu dérangeant dans ce miracle. Le Christ qui met les doigts dans les oreilles du sourd, qui applique sa salive sur la langue. Nous, protestants, qui sommes volontiers critiques envers les cierges, les images miraculeuses, les lieux de pèlerinage, toute la substance qu'il y a dans le catholicisme et dans l'orthodoxie, ce n'est pas le miracle le plus facilement maniable. Parce qu'on ne peut pas contester que ce que raconte Marc, c'est de la magie. C'est un acte magique. Mais au-delà des doigts dans les oreilles et de la salive sur la langue, il y a dans le miracle du sourd-muet beaucoup plus que de la magie. Alors tout d'abord, juste une petite parenthèse, une sorte de contre-champ, pas contre-champ vocal, hein, contre-champ comme au cinéma, quand on déplace la caméra pour voir un autre angle. Quand Marc raconte la guérison du sourd-muet, on se concentre évidemment là-dessus. Mais n'oublions pas, juste avant la fin du récit, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Ce n'est pas la seule fois que Jésus demande à son thèse ses prodiges, ni la seule fois qu'un évangéliste souligne que ses disciples ne lui obéissent pas. Et là, il y a un entrelac de symboles passionnant. C'est-à-dire qu'il rend l'ouïe et la parole à un homme, et en même temps, il veut que cela soit tu. il rend la parole et il veut qu'il y ait silence. Et c'est là que ses disciples, son Église, rompent ce silence. Et il y a en outre quelque chose qui est un jeu d'ambiguïté extrêmement fécond sur le langage et qu'on doit retrouver dans à peu près toutes les traductions de la Bible, c'est la formule magique qu'il prononce, « Ephata », un impératif araméen qui veut dire « ouvre-toi », « écouter », « parler », c'est « s'ouvrir ». Et ce miracle est singulier dans les évangiles quand on le relit aujourd'hui, 21e siècle, parce que le Christ fait ses gestes magiques, de la salive, une formule araméenne, mais il emploie ce terme qui résonne très étonnamment dans notre siècle. Parce que s'ouvrir, c'est ce qu'on demande à notre Église, c'est ce qu'on demande à notre temps, c'est ce qu'on demande à notre pays, c'est ce qu'on demande à nos enfants, c'est ce qu'on demande, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui considéré comme une des vertus cardinales du citoyen idéal. Et c'est même dans la société française, parenthèse, une des réputations premières des protestants. Ce que j'aime avec vous, les protestants, c'est que vous êtes vachement ouverts. Vous êtes vachement open comme religion. Donc on est, et c'est curieux, comme on voit cet araméen qui résonne avec une espèce de morale très contemporaine qui sonne un peu comme un éditorial politique dans Libération. Ouvre-toi. Mais donc, revenons à ce qui lie les trois textes d'aujourd'hui. Le Christ ne nous commande pas d'écouter. Ça, c'est Zacharie, ça, c'est Paul. Le Christ fait entendre un sourd. Et ce n'est évidemment pas un hasard si entendre et parler sont les deux facultés qu'il recouvre en même temps. Alors, vous le savez, il y a beaucoup de miracles dans l'évangile de Marc. C'est cette partie-là, du chapitre 5, je crois, jusqu'au chapitre 9, il me semble, le Christ multiplie les miracles. Auparavant, il a guéri divers malades, il a marché sur les eaux, il a multiplié les pains. Après cet épisode, il va remultiplier les pains, il va guérir un aveugle, il va guérir un démoniaque. Et si nous nous arrêtons à ce sourd-muet, et si ce sourd-muet a autant d'importance dans la tradition chrétienne, puisqu'on prêche souvent sur ce passage, c'est parce qu'il prolonge Zacharie d'une certaine manière, et surtout qu'il annonce ce que le Christ demande à ses disciples, à l'humanité, et en attendant la nouvelle Jérusalem, ce qu'il demande à son Église. Ne pas être sourd, donc. Et c'est certainement une des difficultés les plus constantes de tous les humains qui cherchent à suivre le Christ. Parce que nous croyons tous entendre distinctement. Quand Paul enguirlande les Galates, parce que c'est vraiment ce qu'il fait, les enguirlande, Galates sans intelligence. Quand Paul enguirlande les Galates, il a certainement face à lui des fidèles du Christ qui sont certains d'avoir des oreilles, qui sont certains d'avoir l'intelligence et donc le cœur tout aussi ouvert que leurs oreilles. Et d'ailleurs, Paul le dit lui-même, ils écoutent l'Évangile. Ils ont donc les oreilles ouvertes. Et on est déjà loin des imprécations de Zacharie contre les hommes qui ont rendu leur cœur dur pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel. Paul fait remarquer aux Galates qu'il leur suffit d'écouter. Leur salut passe par l'écoute de l'Évangile, leur foi, la foi qui sauve, se manifeste par l'écoute, notamment. Et l'histoire des multiples dénominations, l'histoire des innombrables nuances à l'intérieur de chaque dénomination de nos églises depuis le début de la Réforme il y a 500 ans. Cette histoire est principalement l'histoire d'humains qui ont cessé d'être sourds et qui en ont conscience. Les reproches de Zacharie ont été entendus, le miracle a été accompli par le Christ, et je suis persuadé que la plupart d'entre nous dans cette Église, mais la plupart des chrétiens depuis quelques siècles, depuis même quelques dizaines de siècles, la plupart des chrétiens ont un petit regard ironique pour les Galates. Ces pauvres Galates qui croient encore se sauver en pratiquant les œuvres de la loi, mais ces pauvres Galates surtout qui n'écoutent pas assez. Et donc, c'est bien entendu, nous, chrétiens, nous avons conscience, parfois même fierté, nous avons conscience de n'être pas sourds. Alors bien sûr, dans nos prières de repentance, dans nos prières d'humilité, dit-on aujourd'hui, dans l'heure des cultes, dans nos prières intimes, dans nos prières personnelles, dans nos prières secrètes, nous nous reprochons notre surdité aux souffrances du monde, notre surdité, parfois, souvent peut-être, aux difficultés de nos proches, notre surdité collective au hurlement de douleur de la création qui est torturée par les hommes. Mais sourd à l'Évangile, certainement pas. D'ailleurs, si l'on vient au temple un dimanche, c'est bien le signe que, métaphoriquement, nous avons senti les doigts du Christ dans nos oreilles, c'est que nous nous ouvrons quand il dit « Ephphatha ». Et si la question n'était pas aussi de savoir ce qu'il faut entendre si nous ne sommes pas sourds? Et si la question n'était pas principalement celle d'une ouverture bien choisie, d'une ouverture pertinente, d'une ouverture qui soit dans le sens de la foi? Et si ce que nous demandait le Christ quand il nous dit d'entendre, et si ce que nous demandait Paul quand il nous commande d'écouter avec foi, ce n'était pas l'essentiel du travail théologique de chacun d'entre nous? Nous qui ne sommes pas pasteurs, nous qui sommes des fidèles du Christ avec des métiers, des passions, des familles, des attachements, des occupations, qui ne nous laisse pas toujours le loisir de plonger dans la Bible plusieurs heures par jour, nous qui n'avons pas appris, pour la plupart d'entre nous, sous bénéfice d'inventaire, nous qui n'avons pas appris l'hébreu, qui n'avons pas appris tous l'histoire biblique autant que nos pasteurs, et si c'était pas cela, au fond, le travail théologique qui nous est demandé? Parce que très souvent, dans les grandes choses de l'Église, comme dans les soucis plus intimes, plus personnels, nous essayons tous d'entendre le juste conseil, la voie droite, l'option qui nous semble la plus conforme à notre foi en Christ, à notre foi protestante, à notre foi réformée, peu importe le nom que l'on mette là-dessus, mais le plus conforme à notre foi. Alors, depuis quelques siècles, nous lisons la Bible. Depuis quelques années, nous allons sur les réseaux sociaux où on peut lire la Bible. Mais c'est toujours la même Bible. Nous écoutons la prédication ici ou là. Les Galates n'écoutaient que les pasteurs Galates. Nous, nous pouvons écouter des pasteurs, des voix d'un peu partout. Quand nous sommes polyglottes, nous pouvons écouter des pasteurs en plusieurs langues et simultanément. Quand nous vivons dans une ville comme celle-ci, nous pouvons aller de dimanche en dimanche, d'église en église. Et nous ne sommes certes pas sourds, mais au fond, ce qui arrive, c'est que nous entendons beaucoup de choses à la fois. Nous entendons beaucoup de choses à la fois dans la Bible, beaucoup de choses à la fois parmi nos frères, beaucoup de choses à la fois dans le monde. Et quand le Christ parle de s'ouvrir, il ne dit pas seulement d'entendre, mais aussi de parler, c'est-à-dire de faire entendre à notre tour. Et après lui, Paul a donné un bon conseil, écouter l'Évangile avec foi. Et armé de tout cela, chrétien ordinaire, nous essayons d'écouter. Or, la Sainte Bible est un gros livre, un livre de 66 livres, d'où montent des voix nombreuses, des voix plurielles, des voix parfois contradictoires. Et ne pas être sourd n'est pas forcément les entendre tout ensemble et tout à la fois. Et c'est peut-être cela la principale difficulté que nous pose cette objurgation d'entendre. Et c'est cela certainement une des plus grandes difficultés qu'il y a à vivre dans la foi. Car nous connaissons tous la voix énorme qui apporte au monde ces quelques mots toujours nouveaux à chaque génération, chaque année, chaque jour, ces mots toujours nouveaux qui sont « aime ton prochain comme toi-même ». Et en même temps, nous entendons les voix des juges, les voix des prêtres, les voix des chefs, les voix d'un autre temps que le nôtre, qui disent avec l'air grave, par exemple, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Cette voix-là est au chapitre 11, verset 6 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Ce n'est pas une vieille traduction, c'est la traduction de Louis II. Je ne parle pas seulement des prescriptions plurimillénaires de l'Ancien Testament, de ces choses que l'on regarde en sachant très bien que ça a 5000 ans et que ça ne nous concerne pas, même si c'est écrit avec la même autorité divine dans la Bible. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. Lévitique, chapitre 25. Non, je parle de tout ce bruissement, de toute cette polyphonie un peu désordonnée, d'obligations, de décrets, d'interdictions, d'autorisations, de nuances, qui régulièrement viennent semer la discorde dans le peuple du Christ. Certains vous attesteront qu'il est écrit, et que donc on doit l'entendre et y obéir, qu'il est écrit, « Femmes, soyez soumises à vos maris », ça nous fait toujours rire, Éphésiens, épître aux Éphésiens, chapitre 5, certains excluent avec passion l'une ou l'autre partie des humains, à cause d'une énumération dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Autrement dit, adultère, cela doit être à peu près tout le monde. Efféminé, qui est la traduction choisie par Louis II pour essayer de transcrire quelque chose qui ressemble à l'homosexualité, qui n'était pas comprise de cette manière au temps biblique, mais ça ressemble à ça. Ivrogne, c'est énormément de monde. Et c'est beaucoup de ceux que, précisément, l'autre voix que nous entendons si bien, c'est beaucoup de ceux que, précisément, le Christ dit d'aimer comme soi-même. Alors je n'ai évidemment pas le dernier mot sur ces questions, mais j'ai le sentiment que ce qui s'impose quand le Christ veut mettre fin à la surdité des hommes, ce n'est pas uniquement mettre fin à leur incapacité à entendre son évangile, mais aussi à l'entendre avec discernement, avec foi, peut-être, comme ce que dit Paul. Non pas seulement entendre, mais aussi percevoir les différences de ton et de volume dans les Écritures et dans les prédications. Savoir que sa parole est toujours victorieuse. Savoir que ses commandements d'amour valent toujours mieux que les lois, et même les lois de ses disciples, et même les lois de son Église. Ne pas être sourd, ce pourrait être ceci. Choisir de n'entendre que l'amour du Christ et redevenir sourd au murmure du pharisianisme. Car si Christ est ressuscité, il faut toujours craindre que les pharisiens ne renaissent. Entendre le Christ, c'est surtout ne pas entendre cette étroitesse qui revient toujours parmi les hommes, et même dans son Église. Entendre le Christ, ce pourrait être ceci. Entendre le Christ, ce n'est entendre que l'amour de Dieu. Amen.